Cet enregistrement a été fait dans le cadre de l'action Maison Géante organisée par la Jeune Chambre économique de Montpellier qui se déroule du 18 au 21 octobre au Polygone à Montpellier. Cette action a été portée par des membres bénévoles qui ont organisé cette exposition qui a pour but de sensibiliser les personnes aux différents risques présents dans la maison. L'ensemble des risques abordés durant cet échange sont sensibilisés et sont abordés dans cette exposition et nous vous invitons à venir les aborder avec nos professionnels et nos intervenants qui vous montreront l'ensemble de ces dangers.
L'action La Maison Géante que nous avons réalisée, elle est soutenue par Groupama Méditerranée, la URAPL, l'Organisation patronale des professions libérales d'Occitanie, de la Caisse d'épargne Languedoc et Roussillon, Harmonie Mutuelle et la AGEA, le syndicat des agents généraux.
Bonsoir à tous. La Jeune Chambre économique de Montpellier accueille ce soir trois intervenants pour répondre à un sujet brûlant et de tous les jours, les accidents domestiques et leurs impacts tout au long de la vie. Nous avons ici trois personnes pertinentes qui pourraient répondre à ce sujet dans le cadre de l'action Maison Géante qui se tient actuellement au Polygone à Montpellier. Nous accueillons donc le docteur Lorraine Gauthéroux, Madame Laura Suzan et Monsieur John Grigui sur ce sujet. Je vous laisse vous présenter.
Bonsoir, je suis Lorraine Gauthéroux, je suis pédiatre. Je travaille en réanimation néonatale et pédiatrique sur le CHU de Montpellier et également au SMUR pédiatrique.
Donc Laura Suzan, psychologue clinicienne spécialisée en TCC et en psychotraumatisme. Je travaillais auparavant au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique du CHU de Montpellier. Et aujourd'hui, je travaille donc en libéral, mais également psychologue chez les pompiers au 10-34.
Bonsoir, John Grigy, agent d'assurance Alliance, installé sur le secteur montpellier.
Merci à vous. Merci pour votre présence. Et je sais que vous apporterez des données extrêmement importantes sur ce sujet qui, à beau être quotidien, n'est pas simple à prendre en compte. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. J'aimerais qu'on aborde ce sujet par l'exemple. Donc, je vais inviter Geoffroy, qui s'occupe de la gestion de cette action, à nous lire un témoignage qu'il a lui-même recueilli et qui va parler d'une personne qui a subi un accident domestique de tous les jours et qui en subit encore les conséquences aujourd'hui.
Oui, alors bonjour tout le monde. Je vous raconte l'histoire de Maxime. Maxime a 6 ans, il joue avec son frère de 10 ans et ses cousins, Aki, qu'ils ont plus ou moins entre 10 et 12 ans, au chalet dans les Alpes. Ils veulent allumer un feu dans le jardin. Après plusieurs tentatives sans succès d'allumer le feu, le cousin le plus grand demande de prendre de l'alcool à brûler dans la cuisine pour l'allumer. Maxime donc va le prendre. Et par contre, les enfants plus grands ne veulent pas prendre le risque d'allumer le feu et ils demandent à Maxime de le faire. Maxime, en n'ayant pas de connaissances, il a 6 ans, il utilise la bouteille comme de l'eau. Il verse l'alcool sur les copeaux de bois et un peu sur soi. Le cousin plus grand lui donne les allumettes. Maxime essaie d'allumer, le feu qui prend rapidement. En moins d'une seconde, les bois et Maxime prennent feu. Maxime panique, commence à courir dans le jardin comme une torche humaine. Le frère de 10 ans a le réflexe de lui faire un croche-patte pour le faire tomber et l'aider à l'éteindre. Le grand-père, qui était là dans la zone, arrive à bloquer le feu. Maxime aura des brûlures du bassin jusqu'au cou, de deuxième et troisième degré. La famille de Maxime et ses cousins ne se parlent plus. Le cousin a toujours nié d'avoir demandé à Maxime de prendre l'alcool et d'allumer le feu. Le grand-père continue à défendre les cousins. Depuis ce jour, Maxime a subi plus de 52 greffes de la peau, avec des techniques les plus avant-garde connues par la médecine. Il porte toujours son col roulé, même à 40 degrés. Il a eu une éducation scolaire fragmentée et difficile entre les allers-retours des hôpitaux et les camarades de l'école qui n'étaient pas très gentils avec lui. À 18 ans, il a dit « Le jour que je ferai l'amour avec ma femme, je garderai mon t-shirt et je lui dirai que mes cicatrices sont là parce que je suis un héros. » Maintenant, Maxime, il a 42 ans. Il vit avec sa femme, mais il n'aura jamais d'enfant parce que Maxime a très peur.
Merci Geoffroy pour ce témoignage poignant. J'aimerais qu'on statue un peu sur ce qu'est aujourd'hui un accident de la vie, un accident domestique. Monsieur Grigy, est-ce que vous pouvez nous répondre et peut-être nous donner quelques statistiques annuelles sur le sujet en France ?
Tout à fait. Notre objectif, nous, en tant que... Alors j'interviens en tant qu'assureur. L'objectif, c'est d'essayer de couvrir ces risques de façon efficace. Je vais vous faire un schéma assez succinct de la situation. On a dans notre métier une association qui s'appelle Assureur Prévention qui détermine systématiquement l'objectif de prévenir l'éventualité d'un risque domestique. Il y a quatre familles qui sont importantes. Il y a la notion effectivement des accidents domestiques, le focus des chutes des seniors, les focus incendie des domestiques et après connaître l'éventualité des gestes. Alors, il y a plusieurs points. Il y a la chute, l'incendie, la suffocation, l'intoxication. Chaque année, les accidents domestiques, ainsi nommés, parce qu'ils ont lieu à la maison, représentent la majorité des accidents de la vie courante. Quelques chiffres, comme vous m'avez demandé. Il y a 11 millions de blessés chaque année, plus de 20 000 morts, tout âge confondu. C'est la première cause de décès chez les enfants de 1 à 14 ans. Les accidents de la vie courante sont à l'origine de 21% des décès de 1 à 4 ans et 13% des décès entre 5 et 14 ans. 10 000 seniors décèdent suite à un accident du quotidien. Ils se déroulent souvent dans l'environnement de la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça peut être dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, dans la salle de bain, dans le garage, dans le jardin. Et en cas d'incendie, c'est l'exemple qu'a évoqué Geoffroy tout à l'heure. Alors rapidement, dans la cuisine, je vais prendre quelques éléments. C'est les casseroles. Je ne vais pas étayer, mais voilà, on arrive tout de suite à imaginer effectivement ce qui peut se passer. Les produits ménagers, le four, la chaise haute et les couteaux. Ce sont vraiment les éléments dans la cuisine qui sont très, très dangereux. En ce qui concerne le salon, les escaliers, les prises électriques, les plantes, la table basse et les gâteaux apéritifs. En ce qui concerne la chambre, c'est souvent les meubles, les fenêtres, souvent ouvertes, on oublie par moment. Les jouets, on revient sur la problématique liée aux enfants, hein, souvent c'est pour ça que je l'aborde, et le lit. En ce qui concerne la salle de bain, c'est les médicaments, les flaques d'eau, c'est souvent lié aux seniors, hein, on glisse, on se fait mal, on se prend effectivement ou le lavabo ou la baignoire, ça peut faire très mal. Les produits cosmétiques, les sèches-cheveux et l'eau du bain. Le garage, pour ceux qui en ont, la porte du garage, le pot d'échappement, la caisse à outils, les produits chimiques et objets coupants. Ensuite, dans le jardin, à l'extérieur. Souvent, c'est la tondeuse, la piscine et les plantes. Voilà, j'ai essayé de vous donner un aperçu. On peut après rentrer dans le détail, mais voilà. Aujourd'hui, la problématique des accidents domestiques concerne essentiellement la maison extérieure-intérieure.
On a brossé un large panel de dangers qui peut représenter ce qu'est la maison. Docteur Gauthéreau, qu'est-ce que vous avez comme retour sur l'ensemble de ces dangers et même sur la situation qu'a vécu Maxime? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent dans votre métier? Et est-ce que ça, finalement, on aurait pu l'éviter facilement?
Alors, nous, clairement, les accidents domestiques en pédiatrie, c'est notre quotidien. Et encore, moi, je parle sur la version réanimation, mais aux urgences, c'est un motif de consultation qui est très, très fréquent, que ce soit l'ingestion accidentelle de produits, les brûlures, les noyades. Donc, c'est vraiment une problématique très courante et dont on a l'habitude, malheureusement. Alors, ça va vite, hein, ces accidents. C'est pas toujours évitable parce qu'on peut pas être branché tout le temps sur son enfant. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Si on prend l'exemple, l'accès d'alcool à brûler pour des petits, ça c'est quelque chose sur lequel finalement, qui aurait pu être évitable. Ces enfants, bah, ils sont bien obligés de jouer à un moment donné, on ne peut pas tout le temps être fixé sur eux. Mais par contre, accéder à des allumettes et de l'alcool à brûler à cet âge-là, bah, ça c'est quelque chose qui aurait peut-être permis d'éviter cet accident. Et des fois, parfois c'est pas évitable, parce que malheureusement c'est la vie, mais parfois il y a des choses effectivement qui pourraient être travaillées, on va dire.
C'est des choses que vous voyez beaucoup?
Alors, c'est des choses qu'on voit beaucoup. C'est vrai qu'en réanimation, on voit les accidents qui ont le plus de conséquences aiguës. Beaucoup de brûlures, notamment en pédiatrie. Beaucoup de noyades, ça c'est assez classique sur l'été. On a beaucoup d'ingestion de produits. Alors, pas toujours en réanimation, mais il y a des centres antipoisons qui existent et ils sont contactés, je pense, quotidiennement pour ce genre de situation. Alors, ça n'a pas toujours des conséquences pour les enfants, mais les ingestions accidentelles, heureusement pour nous, n'ont pas toujours d'impact, mais ça peut arriver. Oui, c'est très, très fréquent.
Je vais passer la parole à Madame Suzan, du coup. Ici, on parle d'un accident de brûlure qui a plus de 30 ans. pour Maxime. Et on a un impact qui est extrêmement fort. Vous, dans votre métier, vous suivez ce type de victimes, de personnes, mais aussi leur famille. Et qu'est-ce que vous pourriez en dire de ce cas? Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voyez beaucoup? Et comment est-ce que vous abordez le sujet dans un premier temps avec eux?
Alors, dans le cas de Maxime, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, il y a 30 ans qui s'est passé, enfin plus de 30 ans entre l'accident et l'impact qu'il y a encore aujourd'hui, et que cet impact, il n'est pas diminué par le temps. Et ça, en psychiatrie, en psychologie, c'est ce qu'on constate, c'est que les blessures psychologiques, elles ne sont pas vraiment de temporalité tant qu'on ne les travaille pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un impact sur sa vision de la vie de famille, sur sa vision de son propre corps. Il y a beaucoup d'évitements, je ne montre pas mon corps, je ne veux pas avoir d'enfant. Je vois aussi beaucoup de colère et d'injustice, finalement, qui pourraient être tournées vers la famille, qui nie le fait qu'il puisse avoir été incité par d'autres, ou qu'en tout cas, il n'est pas pleinement responsable de cet accident. Donc, je vois beaucoup, j'aperçois beaucoup de signes, de symptômes qui pourraient montrer qu'il est encore impacté. Il y en a beaucoup d'autres. Il ne les présente pas. Après, peut-être que ça n'a pas été non plus questionné dans son cas. Mais en tout cas, bon, les conséquences sont encore là.
Et du coup, ce rôle familial, finalement, comment est-ce que vous l'entrevoyez dans votre métier, dans une première approche?
Le premier rôle de la famille, mais même plus largement de l'entourage proche des personnes victimes, des témoins, ça va être de valider émotionnellement en fait ce qui s'est passé et de pas forcément porter de jugement en se disant « moi j'aurais fait différemment » ou « ce n'est pas valable parce que je pense que j'aurais pu faire autrement ». Là, le fait que son cousin déjà... qu'il ne prenne pas en fait part de son rôle dans l'accident, le fait que le grand-père, je crois, dit qu'il défend, enfin voilà, c'est du coup des sentiments d'injustice. Et quand on ne se sent pas soutenu, quand on ne se sent pas compris, validé dans ses émotions, dans son statut de victime, et je mets victime avec des guillemets en fait, hein, quand on est victime d'un événement, c'est beaucoup plus dur d'affronter les symptômes qui peuvent découler. Donc là, les évitements, la colère, la peur. Mais on peut aussi avoir d'autres symptômes, hein, de type des cauchemars, une peur, une phobie du feu, en fait, une impossibilité à pouvoir en sentir juste l'odeur d'un barbecue, le fait de pouvoir être hyper vigilant, d'être tout le temps sur le qui-vive, d'avoir des symptômes, des troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation. Là, j'en dis quelques-uns, mais l'image du corps aussi qui est abîmée, qui est perturbée. Et ça, quand l'entourage familial ne valide pas que c'est normal, que ça existe et qu'on peut le prendre en charge, c'est beaucoup plus dur quand on est vulnérable de prendre cette décision tout seul.
Bien sûr, et dans tout ça, tout au long de la vie, finalement, on travaille sur quels impacts ça peut avoir. Parce que finalement, cet accident domestique est le point de départ d'une nouvelle trace dans la vie, finalement. Et donc, on change finalement, on va dire, sa destinée à travers ça. On voit deux choses là-dedans, c'est l'impact immédiat, c'est qu'est-ce qui se passe avec cet accident domestique. Je reviens vers vous, docteur Gouttero, dans votre quotidien aux urgences pédiatriques, en l'occurrence, et même dans votre expérience médicale, comment est-ce que vous voyez ces impacts immédiats sur cette phase plutôt aiguë de l'événement pour la victime et pour les témoins, la famille, l'ensemble des acteurs finalement de cet accident? Comment est-ce que ça se vit au quotidien?
Ça dépend effectivement pour ce qui est de la victime, tout dépend des conséquences immédiates en fait de l'accident. Hein. C'est-à-dire que bon, moi dans mon travail, je vois les cas les plus sévères. Donc là, l'impact il est de l'inquiétude même pour le devenir. Neurologique, vital, des conséquences fonctionnelles, comme on peut l'avoir dans un cas comme celui-ci avec des brûlures sévères, par exemple. Ça, c'est des enfants qu'on peut voir en réanimation. Dans le cas, par exemple, de brûlures, la gestion de la douleur aussi, qui est très importante, qui peut fortement impacter immédiatement. Des soins qui sont très, très longs. Pour ce qui est de la famille, alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, parce qu'il y a les parents, il y a la fratrie aussi qui peut être. Témoin de l'accident, voire parfois impliqué effectivement indirectement, donc des sentiments de culpabilité, beaucoup de culpabilité chez les parents, et puis le temps que l'enfant se remette de tout ça, la vie elle s'arrête pour s'articuler autour de l'enfant et de son parcours. Donc ça c'est vrai que c'est immédiat. Après les conséquences c'est sûr qu'elles sont plus à long terme aussi pour l'ensemble des protagonistes.
Et au-delà des soins médicaux, il y a aussi cette phase de gestion de crise finalement qui est peut-être à prendre en compte dans l'immédiat.
Il y a des accidents, c'est difficile de tout mettre dans la même situation parce qu'il y a des accidents qui n'ont pas forcément d'impact sur l'enfant, en tout cas physiquement, médicalement, mais qui pour le coup, émotionnellement pour les familles, va engendrer beaucoup. Et ceux-là, finalement, ils ne sont pas forcément très accompagnés parce que ben, ça va très vite, le passage à l'hôpital. Mais par contre, ma collègue elle en parlera peut-être, mais le retentissement, il peut être quand même bien présent. Les parents, s'ils ont eu l'impression que leur enfant il allait mourir, même si derrière, on les rassure et qu'il ne s'est rien passé, voilà, les angoisses, elles restent. La gestion, en tout cas, intra-hospitalière, on a des psychologues hein, qui voient les familles, qui permettent déjà de sortir certaines choses. Bon, selon les accidents aussi, il y a des choses qui sont plus discutables, on va dire, socialement, enfin, qui peuvent aussi entraîner des démarches d'aide et de soutien aux familles, on va dire, sociales, parce que ben, même si ces accidents ils peuvent survenir très vite et dans n'importe quel cadre, parfois, il y a un défaut de vigilance, un défaut de soins, un défaut de... Voilà, qui aussi enclenche certaines procédures d'aide sociale ou parfois d'information plus judiciaire, ça peut arriver aussi.
Chacun a besoin de son accompagnement et de sa solution diverse. C'est une très bonne transition pour Madame Suzan, du coup. Comment vous, dans votre rôle, vous arrivez à mobiliser la victime de cet accident, mais aussi les témoins, pour modérer finalement ces impacts et pour peut-être même passer outre ces impacts? Et comment est-ce que vous les accompagnez, vous, dans cette démarche?
Alors déjà, il y a deux temps, je pense. On peut parler du temps immédiat, comme vous avez abordé. Ça vient de se passer, donc il passe dans un service d'urgence de réanimation. Et donc là, c'est de la gestion de crise. Donc, quels sont les besoins de la famille, là, en immédiat? Donc, ça peut être des besoins en termes de soutien social, comme a pu le dire Lorraine. Mais également, je pense au niveau des assurances. Qu'est-ce qui peut être fait? Quelles aides logistiques sont possibles? Et au niveau psychologique, ça va être comment est-ce qu'on peut apaiser au plus vite la crise? Comment est-ce qu'on peut ne pas rajouter de la crise sur la crise? C'est-à-dire, comment on peut ne pas rajouter des conflits entre les parents, par exemple, il était sous ta surveillance à toi, ou comment faire pour ne pas en fait que cet impact ait un impact par exemple sur la fratrie. Si je me permets de donner un exemple, mais tout à l'heure donc Lorraine parlait de patients qui passeraient pas forcément par les urgences parce que pas de risque, mais j'ai souvenir d'une maman donc dont un enfant qui avait ingéré des médicaments. En fait, où elle a paniqué, elle a juste vu les petites capsules, elle n'était pas sûre. Donc du coup, un appel au médecin qui lui dit « c'est bon, on reste sur surveillance ». Et après, une forme de, alors je mets des gros guillemets, hein, mais une forme de psychose, de très très grosse peur en fait, de que ça se reproduise. Et donc une impossibilité de laisser ses enfants sans surveillance, même au point de se réveiller la nuit plusieurs fois pour aller vérifier que les enfants respirent. Et ça pendant plusieurs années. Donc je pense que quand on est parent, déjà, on a une dette de sommeil importante. Mais si on rajoute... le fait de se lever en plus quand l'enfant ne réclame pas pour aller vérifier qu'il respire, bah ça fait une dette de sommeil beaucoup plus importante et beaucoup plus de difficultés à gérer l'anxiété. Donc déjà, la première phase, c'est comment ne pas rajouter de la crise sur la crise, en apaisant et en essayant de rapporter des solutions pragmatiques. Et dans un second temps, c'est quand il y a retentissement, parce que c'est pas systématique, c'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui arrivent à mobiliser en fait ce qu'on appelle des capacités de résilience, de réussir à mobiliser en fait des ressources internes, donc en soi mais externes. L'environnement vient m'aider. Je fais appel, par exemple, à une éducatrice. Je fais appel à une infirmière à domicile. Enfin, tout ce genre de démarches qui peuvent être faites. L'accompagnement par les médecins de ville aussi, hein, qui peuvent soulager les parents, rassurer parfois sur les signes qu'ils pourraient observer. Et donc, on peut ne pas avoir de symptômes, donc il peut y avoir de la résilience. Et entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'il y a une forme de force ou de faiblesse hein, pour ceux qui arrivent, mais s'il y a des symptômes, là, ça va être d'enclencher assez rapidement une démarche de soins, de demander de l'aide à des professionnels. Alors, bien sûr, il y a les psychologues, il y a les psychiatres, mais j'ai pas envie de restreindre non plus en fait l'accompagnement à uniquement ce corps de métier-là. Parfois, il y a des patients qui sont très bien soutenus par une infirmière à domicile qui passe, par un médecin traitant, par une assistante sociale, par une éducatrice de la PMI, qui peuvent en fait apporter cet étayage. Et le principal, c'est toujours d'orienter, lorsque ça commence à devenir plus grave, vers des services dédiés. Et c'est là où, du coup, l'intervention d'urgence, en fait, en immédiat, sert à long terme. C'est-à-dire, je sais quels signes doivent m'alerter, je sais à quel moment je dois faire appel à des professionnels, appel à une équipe, d'où l'intérêt de psychologues, de psychiatres, de psychologues surtout dans tous les services, parce que les psychiatres, c'est surtout dans les services psychiatriques, mais où il va y avoir une information qui va être donnée aux témoins, aux victimes, aux parents, pour détecter les signes.
Dans cette démarche globale, du coup, Monsieur Grigy, l'assureur a forcément un rôle dans cette prévoyance, on va dire, même si je pense que le mot est mal choisi dans votre milieu. Comment est-ce que vous aidez finalement vos clients qui ont pris une assurance et qui en ont eu besoin un jour?
Il y a plusieurs choses qui ont été dites, donc j'aimerais revenir et je répondrai précisément. Il faut déjà solliciter l'intérêt à ce que l'ensemble, effectivement, des personnes qui peuvent prennent un contrat, effectivement, des garanties des actions de la vie privée. On a évoqué le sujet par rapport à la pédiatre et à la psychologue ici présente sur l'enfant, mais on se rend compte aussi que ça touche n'importe qui, à n'importe quel moment, ça peut toucher un adulte en activité. Et lorsqu'il a un accident hors cadre professionnel, il n'a pas de garantie. Donc si aujourd'hui, personne ne souscrit une garantie des accidents de la vie privée, la garantie n'étant pas acquise, pas de possibilité de prise en charge et donc pas de possibilité de soins, etc., etc. Donc ça, ça a un coût. Il y a aussi les personnes d'un certain âge qui aujourd'hui, de plus en plus, restent chez elles, ou du moins ont une dynamique de vie, et souvent, elles peuvent se retrouver confrontées à une blessure dans un jardin, dans une salle de bain. Et donc, de ce cas de figure, il y a besoin d'une aide, d'une charge effectivement financière. Et si on a souscrit un contrat garanti des accidents de la vie privée, c'est tout à fait envisageable dans n'importe quelle compagnie d'assurance ou banque. Assurance. Je voudrais revenir sur les chiffres et étayer un peu plus le sujet sur la garantie des accidents de la vie privée. Comme je disais au préalable, il y a 11 millions d'accidents de la vie privée chaque année. Je ne vais pas revenir sur la notion de la mort, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est 18 500 morts. C'est 4 fois plus élevé que le nombre de décès sur la route. C'est 11 500 accidents domestiques mortels, chutes, incendies, bricolage, ingestion de produits, et 7 000 morts lors des accidents scolaires, de sport ou de loisirs. Ces accidents représentent la troisième cause de mortalité derrière les cancers, les maladies cardiovasculaires. 4 fois sur la cinquième victime est seule responsable de l'accident. Je ne veux pas faire peur, mais c'est vraiment faire prendre conscience du sujet et l'importance du sujet. Et c'est l'objectif de notre échange de ce soir. Rapidement, la sécurité sociale ou la mutuelle ne couvre pas les conséquences d'un accident de la vie privée. Elle rembourse les soins, l'hospitalisation, les médicaments, voire, dans les cas graves, verse une pension d'invalidité dont le montant est loin de compenser le préjudice subi. L'intérêt de la garantie des accidents de la vie privée, c'est indemniser notamment, et là on l'a évoqué avec la psychologue, les souffrances endurées, la perte de revenus pendant l'immobilisation et la perte de revenus futurs lorsque le handicap empêche la victime de reprendre son emploi ou le même emploi. Le préjudice esthétique ou d'agrément. Les frais d'assistance d'une tierce personne, si celle-ci est nécessaire, les frais d'aménagement de la maison, du véhicule, etc., etc. Et en cas de décès, les frais d'obsèques, bien entendu, le préjudice d'affection des proches et le préjudice économique. Donc vous voyez, on a vraiment un large panel, effectivement, de la couverture du risque. Les montants versés, ça peut aller jusqu'à 2 millions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, aujourd'hui, je représente une compagnie d'assurance, mais globalement, les compagnies et l'ensemble, effectivement, des banques assureurs essayent de couvrir le maximum le risque pour apporter une valeur ajoutée sur les garanties de l'accident de la vie privée. Il y a une notion d'assistance aussi que je voudrais apporter sur le contrat. Il y a souvent une assistance téléphonique immédiate. Souvent, la personne se blesse ou est blessée, elle est hospitalisée. La personne qui endure ce préjudice a peut-être besoin d'un accompagnement. Il peut être psychologique, comme on l'a évoqué, mais surtout aussi administratif, parce que des fois, il peut se retrouver face à une situation quand on est seul ou qu'on n'a pas la chance d'être accompagné. Il y a une aide psychologique et pédagogique de l'enfant dans les matières scolaires principales. En cas d'hospitalisation, il y a une aide ménagère à domicile, une présence d'un proche à domicile pour s'occuper des enfants de moins de 15 ans, des transferts d'enfants de moins de 15 ans chez un proche. Tout ça, ça a un coût. Et donc derrière ça, il y a un investissement financier et la garantie du contrat permet effectivement de pouvoir subvenir à cette notion-là.
Donc avec votre métier, on a brossé quand même un tableau qui est ce qu'il est aujourd'hui sur les accidents domestiques. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que ça peut arriver à tout moment, à n'importe qui et dans n'importe quelle condition, avec bien sûr un focus aujourd'hui quand même sur les accidents domestiques auprès des enfants, qui semble quand même assez important pour ce qui est de la mortalité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un fatalisme là-dedans, on peut aussi se prémunir finalement contre ça. Je vais me tourner vers Madame Suzan. Alors, quand vous intervenez, généralement l'accident s'est déjà passé. Donc comment est-ce qu'on fait pour minimiser finalement cet impact tout au long de la vie par la suite? Et comment est-ce qu'on aide ces personnes?
Du coup, en saisissant toutes les aides possibles, alors là je suis ravie d'entendre et d'avoir à mes côtés un collègue qui va pouvoir militer aussi sur le fait que les consultations psychologiques puissent être remboursées et prises en charge. Mais du coup, voilà, l'idée c'est de se dire que l'accompagnement professionnel par des professionnels va être, alors c'est pas la seule solution, mais c'est une clé. Après, surtout, ce qui va être comment minimiser les risques, en fait, qu'est-ce que je peux faire moi, c'est en parler, le partage émotionnel, dire quand ça va pas, alors sans forcément raconter un événement qui était violent mais ou difficile, mais peut-être dire voilà, je suis triste, j'ai des images, je me sens apeurée, je suis anxieux, j'ai peur de reprendre le travail, j'ai peur de laisser mon enfant à la maison. Donc, exprimer ses émotions, essayer de maintenir au maximum les activités plaisir. Parce que lorsqu'on vit des choses difficiles, on a tendance à tout arrêter. On arrête de vivre, on arrête d'aller voir les copains, on arrête de sortir, on arrête de faire du sport. Et bah, quand on a plein d'émotions négatives et qu'on arrête l'entrée d'émotions positives, on peut imaginer que le résultat va pas être très positif. Ensuite, il va y avoir aussi faire attention du coup aux substances qui pourraient être ingérées, c'est-à-dire essayer de ne pas compenser la charge émotionnelle par l'augmentation du tabac ou la consommation d'alcool, la consommation de cannabis. C'est pas le moment d'arrêter en général, mais c'est pas non plus le moment d'augmenter la consommation. Et après, j'aimerais faire aussi un tout petit point sur le fait que c'est possible d'avoir des idées suicidaires. Lorsqu'on vit des événements difficiles, lorsqu'on a du mal à surmonter les difficultés et que pour ces symptômes, qui sont un symptôme grave, qui sont légitimes d'aller aux urgences quand on les ressent, il y a des numéros de téléphone mis en place, enfin un numéro de téléphone mis en place par l'État, hein, le numéro de le 3114, le numéro national de prévention du suicide, les services d'urgence, et tous les professionnels sont logiquement formés, et donc c'est d'en parler, surtout de ne pas rester tout seul par rapport à ces difficultés.
Le fait d'être entouré et d'être accompagné par des professionnels qui peuvent vous aider, quelle que soit la gravité du symptôme qui peut apparaître, en tout cas, est pour vous une bonne solution. Ce qui va m'intéresser maintenant avec M. Grigy, c'est comment est-ce que l'assureur peut aussi s'aider à se prémunir, comment est-ce qu'on peut rentrer dans une phase de prévention lorsqu'on prend une assurance, est-ce que vous êtes pourvoyeur de solutions pour aider vos clients dans cette phase-là?
L'idée, c'est quand on préconise l'intérêt de souscrire un contrat garanti d'accident de la vie privée, c'est prendre la mesure de la souscription, mais surtout la mesure du risque qui peut ou ne pas être couvert. Mais surtout, l'intérêt, c'est de faire prendre conscience de l'importance de la prévention en amont, que ce soit à l'intérieur de la maison, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à l'extérieur, mais surtout dans notre quotidien. Je répondrai plus précisément, mais je vais reprendre un exemple pour qu'on comprenne bien, parce qu'on a beaucoup parlé de la maison, des enfants, mais il y a aussi une problématique que nous rencontrons régulièrement aujourd'hui, c'est l'utilisation effectivement des trottinettes ou des vélos électriques, passage piéton, accident de la vie privée, problématique, et on en rencontre de plus en plus. Et là, c'est un vrai sujet, donc il y a une prise en charge, etc., etc. Donc, la notion de la prévention, c'est, pour revenir, c'est faire attention d'une part à ne pas passer à n'importe quel moment dans n'importe quelle situation avec sa trottinette, avoir la possibilité, alors je parle de celui qui a la trottinette, on peut aussi parler de celui qui se fait renverser, ça peut être un piéton ou toute autre situation, mais en tout cas, l'un dans l'autre, nous, notre objectif avec Assureur Prévention, c'est de déterminer à la souscription du contrat l'importance de prendre conscience de la prévention. Donc là, on a pris l'exemple extérieur, mais à l'intérieur, on l'a évoqué tout à l'heure, on parlait effectivement des plus jeunes, protéger les plus jeunes, ça peut être la problématique de la brûlure, tenir hors de portée des enfants, briquets, allumettes, objets chauds, barbecue. Après, ça peut être chute et défenestration, on l'a vu tout à l'heure par rapport à la chambre, etc., quand les fenêtres, l'étouffement et un certain nombre de choses. Notre objectif, c'est de pouvoir expliquer ça rapidement au client, mais après, c'est aussi lui faire prendre conscience par l'intermédiaire des outils digitaux qu'on peut mettre à sa disposition, par les sites, hein, que ce soit par nous, alliance.fr ou Assureur Prévention. Et là, on va aller chercher des films, on va aller chercher des situations, comme on l'a évoqué au départ par l'intermédiaire de Geoffroy, qui peuvent être dramatiques. C'est cette notion-là qu'il faut vraiment mettre en avant. Alors après, on n'est pas derrière l'ensemble, effectivement, des citoyens de France qui vont... C'est surtout l'intérêt d'une part d'en parler, et là c'est notre rôle en tant qu'assureur, et après surtout leur expliquer la notion préventive qu'il faut avoir, à tout point de vue, dans n'importe quel moment. Mais malheureusement, vous savez comme moi que l'humain n'a pas forcément cette capacité à maîtriser, ou en tout cas à pouvoir avoir cette faculté de pouvoir se dire « je maîtrise l'ensemble effectivement des risques qui peut ou ne peut pas arriver ». C'est ce qu'on appelle cette notion que je viens d'évoquer. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir, de façon préventive, parler, échanger, partager et surtout diffuser l'information à l'ensemble effectivement de nos assurés.
Et c'est vrai que vous, en tant qu'assureur, vous avez cette statistique, finalement, vous savez ce qui se passe finalement en France auprès de vos assurés, donc vous pouvez remonter et faire cette prévention directement, soit auprès des services concernés, soit directement auprès de vos clients par la suite, à travers cette prévention.
Tout à fait.
Une autre personne qui est aussi en ligne de front, c'est vous, Madame Gauthierou, vous recevez du coup toutes sortes de cas, toutes sortes de symptômes. Quels sont pour vous les cas les plus fréquents et comment est-ce qu'on peut s'en prémunir de tout ça au cas par cas, surtout auprès des enfants étant donné que vous intervenez en pédiatrie? Et ce qui va m'intéresser, c'est aussi, est-ce qu'il y a des classes d'âge ou des classes sociales qui sont plus à risque que d'autres dans ce genre de cas?
Pour ce qui est des classes sociales, en fait non, ça touche vraiment tout le monde. Alors après, selon le type d'accident, évidemment, pour une noyade en piscine, bah, faut avoir une piscine. Voilà, une ingestion accidentelle de cannabis, ben, faut avoir du cannabis à la maison. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voit. Donc après voilà, mais sinon ça va très très vite les accidents domestiques. Donc ça touche vraiment tout le monde et c'est très culpabilisant en fait pour les familles. Alors je parle beaucoup de la pédiatrie, mais pour les parents, parce qu'on a l'impression d'être pris à défaut de surveillance, défaut de. Mais en fait, voilà, un enfant, ça prend 3 secondes, en fait. Hein, à... Donc, ça va vite. Pour ce qui est des classes d'âge, les chiffres, finalement, qu'a cité mon collègue, parlent aussi de même, mais c'est sûr que, voilà, on a quand même les enfants de 1 an, 4 ans qui sont très petits et qui ont moins conscience aussi des risques parce qu'ils n'ont pas conscience de l'impact que peut avoir. De la hauteur des choses, qu'on peut tomber d'un balcon, que ces enfants-là, c'est ceux-là qu'on voit le plus souvent. Les ingestions accidentelles, etc. C'est sûr qu'un enfant plus grand, il a beaucoup plus conscience des risques encourus. Mais ça peut arriver à tout moment. Et les accidents, en fait, ils diffèrent selon l'âge des enfants. C'est-à-dire que les tout petits, qui ne sont pas encore en capacité de manger correctement, ceux-là, les ingestions, on parlait des gâteaux apéritifs, mais voilà, ça, c'est des accidents qu'on a effectivement de temps en temps, des fausses routes sur des aliments ou des problèmes de couchage, des noyades dans un bain, tout ça, c'est des enfants, c'est vraiment les tout petits. Après, pour les un peu plus grands, les brûlures, quand ils commencent à marcher, en fait, de toute façon, tout ce qui est chute, brûlure accidentelle parce qu'on a tiré sur la casserole, parce que voilà. Dès qu'ils commencent à pouvoir avoir accès à certaines choses, et souvent ce cap-là d'ailleurs, les parents, d'un coup les enfants prennent de la hauteur, donc ils n'ont pas forcément pensé à mettre certaines choses de côté. Voilà, donc à ce moment-là, ces types d'accidents surviennent pour les enfants plus grands, et ça rejoint en fait très vite finalement après les adultes. Les accidents de brûlure comme celui qu'on a pu décrire, ce n'est pas les plus fréquents, et ça effectivement, cette tranche d'âge-là, elle est plus représentative. On n'en a pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on rejoint plus vite à partir de 6 ans, je dirais, les accidents finalement qu'on peut retrouver chez les adultes. On a parlé de trottinettes, ça c'est un vrai problème.
Il y a un cas en particulier dont on vous a parlé juste avant, c'est sur les piles-boutons. Ça semble anodin, mais pour vous c'est un danger très mortel. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ?
Oui, alors ça c'est vrai que c'est un sujet... Je ne sais pas si les parents le connaîtront. En tout cas, on ne l'aborde pas forcément beaucoup. Mais nous, c'est un des accidents qu'on craint le plus, qui est une de nos plus grosses urgences en fait en pédiatrie. Ces piles-boutons, c'est quelque chose en fait du quotidien qui parfois, malheureusement, n'est pas mis peut-être parce que les parents pensent pas que ce soit si grave. On sait que un médicament, on sait que de l'alcool à brûler, on sait que ça peut être toxique pour un enfant. Mais ces piles-boutons, si elles sont ingérées, elles sont en fait, elles peuvent entraîner très rapidement, dans les quelques heures qui surviennent après l'ingestion, des nécroses des tissus. Donc ça, vraiment, en fait, si ça pouvait ne plus exister, on serait les plus heureux, nous. Malheureusement, ça va être compliqué. Mais ça, c'est vraiment à proscrire, ou en tout cas à mettre très en hauteur, sous clé. Ça ne devrait jamais tomber entre les mains d'un enfant, ça. C'est vraiment une des choses les plus graves qu'on peut avoir en pédiatrie. Et pour lesquels vraiment c'est important que les parents ils aient conscience de ça. Après, voilà, tout ce qui est... on a beaucoup d'ingestion des médicaments des parents. Ça arrive très souvent, les antidépresseurs, tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a très souvent. Des traitements pour le cœur, on a... Ça, c'est des choses aussi... Tout ça, ça ne devrait pas, en fait, tomber dans les mains des enfants et on devrait, normalement, les mettre à distance. Voilà, ça fait partie des choses, effectivement, très évitables.
En effet, donc il y a une grande part de prévention à avoir et de conscience du danger qui est importante. Et on voit à travers vos métiers qu'il y a de l'information qui vous arrive dessus et que vous essayez de rendre finalement à vos clients, patients et même à votre entourage finalement, parce que la prévention passe aussi par la connaissance générale et la transmission. Pour revenir rapidement sur nos échanges, parce que nous allons bientôt en terminer là, on voit ici, on a quand même brossé un tableau assez général, assez rapide aussi, de ce qu'est un accident domestique et de quel impact ça peut avoir dans la vie d'une personne. s'attardant un peu sur le cas des enfants, mais on s'aperçoit que il n'y a pas que les enfants qui sont atteints par ces accidents. C'est les accidents de la vie, c'est tout au long de la vie, comme leurs impacts. Le mot d'ordre, finalement, que j'entends à travers vos interventions, c'est que ça peut arriver à tout moment. Il ne faut pas non plus les chercher, mais il faut pas non plus les craindre. C'est quelque chose qui peut arriver, qui peut nous tomber dessus. C'est pas non plus ultra fréquent, c'est-à-dire que on n'a pas deux accidents par jour. Mais il faut être conscient que ça peut arriver à n'importe qui et n'importe où. Mais que dans certains cas, on peut aussi s'en prémunir facilement et tenir à distance, ou en tout cas réduire largement les conséquences de ces accidents. J'aimerais pour simplement terminer que chacun d'entre vous puissiez nous laisser une idée à garder de votre métier, de ce que vous vivez tous les jours et de si les personnes qui nous écoutent finalement ont quelque chose à retenir, qu'est-ce que ce serait de votre expérience sur ce sujet-là ?
L'expérience, elle est très simple. En tant qu'assureur, c'est conseiller et surtout apporter la garantie que la personne prenne conscience de la prévention qu'il doit avoir tout autour de lui, de sa vie et de ses proches, malgré la garantie qu'il a acquise sur son contrat. Vraiment, l'objectif, c'est au-delà de la souscription de celui-ci, c'est la notion préventive. Prendre la mesure du sujet et alerter au quotidien. Alors, l'idée, c'est pas de faire peur. Hein, faut pas que ça devienne anxiogène non plus. Mais on prend conscience, effectivement. Moi, ça m'est arrivé de glisser en sortant de la douche, essayer de me rattraper, et on se rend compte que là, on s'est rattrapé, mais au moment où on chute, on peut se faire très mal. Et on a la chance pour nous, peut-être, de s'être fait mal, mais n'a pas avoir eu l'accident qui nous permette d'être en incapacité ou autre. Donc, c'est un vrai sujet. Mais en tout cas, le mot d'ordre pour répondre, c'est conseil, suivi et assurer, effectivement, les accidents de la vie privée.
Docteur Gauthéroux ?
Ah, je vais rejoindre mon collègue. Hein. C'est sûr que la prévention, c'est essentiel. On ne peut pas empêcher tous les accidents, mais voilà, on peut prévenir au maximum et déculpabiliser les gens. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde et c'est pas un défaut de surveillance. On peut pas tout prévenir. Donc, déculpabiliser, prévenir et puis après, se faire entourer de toutes les personnes possibles, que ce soit dans l'entourage proche ou les professionnels, pour éviter que ça se reproduise au maximum et passer le cap.
Et pareil, Madame Suzan, du coup.
Eh bien, je vais du coup, encore une fois, rejoindre tout ce qui a déjà été dit. Et je vais rajouter aussi que, bien que ça a été dit, que les événements sont graves, qu'ils sont fréquents et que ça arrive et que ça peut arriver à tout le monde et qu'il faut vraiment déculpabiliser. Alors, c'est facile de dire ne culpabilisez pas, mais c'est bien d'essayer. C'est de se dire aussi que dans tous les cas, tout est rattrapable à peu près. En tout cas, au niveau des conséquences. Alors, bien sûr, je pense que quand on perd quelqu'un, on ne peut pas vraiment le rattraper. Par contre, il n'y a pas de conséquences qui, logiquement, durent toute la vie. Et on peut essayer aussi de voir comment surmonter, se relever en fait d'un événement qui arrive. Et pour avoir suivi nombre de patients qui ont vécu des événements très traumatiques, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de cet événement et comment est-ce que je peux faire de ces conséquences psychologiques une force pour faire attention, pour faire de la prévention, pour diffuser le message, pour que ça n'arrive pas à d'autres et pour aussi, moi, me prouver que je suis capable de le faire. Donc, voilà.
Je vous remercie pour vos retours. En tout cas, c'est très intéressant pour des gens comme moi qui n'ont jamais été soumis à cela. C'est intéressant de voir qu'il y a des dangers que je ne connaissais pas. Et j'espère que les gens qui nous écoutent aussi auront eu quelques idées de prévention dans leur quotidien et par la suite iront s'en prémunir à travers tout ce qu'on a pu aborder ici. J'aimerais terminer cet échange par un témoignage et un hommage finalement, parce que comme on vous l'a dit, ce type d'accident arrive à tout moment et à tout le monde. Il se trouve que dans l'organisation de cet événement, Geoffroy, qui vous a raconté la première histoire, ce premier cas, a subi finalement, enfin en tout cas l'un de ses amis a subi cela durant cette organisation, et pour vous transmettre ce message, j'aimerais qu'il vous lise cette situation afin que vous aussi vous puissiez un jour vous en prémunir.
Mattia, mon ancien camarade de classe et très bon ami, a 42 ans. Il est sourd depuis la naissance. Il a effectué il y a 5-6 ans une opération pour un appareil auditif à ancrage osseux. Il se lève de table au restaurant avant le repas pour aller aux toilettes. Et là, il tombe des escaliers et il est en coma pendant 6 jours. Et samedi passé, il est mort. Et il a laissé son enfant de 3 ans et sa compagne.
Merci Geoffroy. Et courage à toi. Je vous remercie encore pour tout ça et faites attention à vous.